Polysécure, épisode grand public. Cette fois-ci, je suis avec Frank.
Oui, salut Nicolas, bonjour.
Et Emeline.
Et salut.
Nous allons aborder un peu la suite de la conversation qu'on a déjà entamée, c'est-à-dire, là, dans ce cas-ci, la succession 2.0, on a les effets du numérique sur comment on voit l'après-vie. C'est pas toujours agréable à en parler, mais il faut s'en préparer, justement. On a des testaments qu'on devrait tous avoir, justement, pour préparer notre entourage à bien gérer nos avoirs financiers suivant notre décès. Et l'aspect numérique est autant important maintenant que notre empreinte numérique est énorme, autant au niveau des services qu'on consomme, comme Facebook, Twitter, Instagram, par exemple, pour parler aux plus vieux et les plus jeunes qui ont des Snapchat ou des TikTok dans lesquels ils ont aussi des traces et des espaces numériques qui sont existants. Fait que je vais vous laisser débattre un peu du sujet et je vais mettre mon grain de sel au passage.
Oui, je pense qu'on peut commencer par la petite alerte. Oui, on va tous mourir un jour. Je pense que ça, c'est une certitude qu'on a tous probablement. Donc, on va vouloir vous donner des petits outils par où commencer parce que ça peut avoir l'air gros et big. Là, c'est comme une nouvelle thématique qu'on amène. On n'a peut-être pas entendu beaucoup parler, comme tu m'avais dit, Nicolas Loïc, qu'on avait parlé, nous, de cybersécurité éco-responsable. C'est comme, on en entend beaucoup parler en Europe, mais ici, plus ou moins. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on vous propose cette thématique aujourd'hui. Si j'arrive avec une petite définition, vous commencez à me connaître, on ne me présente plus. Je suis quelqu'un de très cartésien et de très organisé. Donc, je vous propose une petite définition pour commencer. Définition du Petit Larousse par rapport à la succession. La succession, c'est une transmission légale à des personnes vivantes des biens et obligations d'une personne qui est décédée. Donc, ça peut également être le fait de succéder à quelqu'un, transmettre un pouvoir, transmettre une responsabilité, une charge, comme dans des cas d'entreprise. Il y a probablement des PME qui nous écoutent, j'en suis convaincue. Donc, ça concerne nos entreprises aussi. Ne pas oublier. Habituellement, le terme succession fait référence au bien qu'avait une personne, comme sa voiture, ses meubles, sa maison. Mais qu'est-ce qu'il y en est qu'en est-il du numérique? Et on a probablement un testament. Et encore, je vous disais en off, messieurs, que je parle beaucoup à des notaires en ce moment, puis ils me disent à quel point eux aussi, leur gros struggle, leur gros défi, c'est d'être dans la prévention et que les gens aient des testaments. Mais est-ce qu'on a un dossier de décès numérique? Qu'est-ce qui advient de mon identité numérique, de mon site web, de ma page Facebook, de toutes ces choses-là? Puis de nos jours, l'information numérique, elle cesse de se développer. Et Franck, je ne sais pas pourquoi j'ai appelé Patrick, je m'excuse. Franck, si tu le disais tout à l'heure, il y a certaines générations qui sont nées dans le numérique complètement. Donc, qu'est-ce qui advient de nos comptes? Qu'est-ce qui advient de nos informations qui sont présentes sur Internet? Suite à un décès, rares sont ceux probablement qui y ont pensé. Puis, Franck, avant que tu en parles personnellement, j'avais jamais nécessairement pensé à la question non plus. Donc, on a quelques conseils pour vous. Avant ça, je suis convaincue que tu vas vouloir ajouter des petites choses. Je te laisse la parole.
Oui, rebonjour, Anne-Lyne. La grosse question au niveau de l'identité numérique, parce que ça sous-entend, comme a dit Nicolas d'entrée de jeu, que notre identité numérique et notre cartographie d'identité numérique est un souci, et un souci surtout, et pour la nouvelle génération, un souci où la discipline doit se faire dès plus jeune âge. C'est une pédagogie qu'on donnait à une époque où ça devient une pédagogie pour le tout facteur, une pédagogie pour les mots de passe longs, une pédagogie pour un certain nombre de choses, de bonne hygiène de sécurité. Ben là, il faudrait presque une bonne hygiène numérique, entre guillemets. Puis en même temps, au vu des temps, moi, de mon vieil âge désormais, je sais que j'ai 36 ans de vie numérique, même si j'ai une vingtaine d'années maintenant, ou 22 ans de vie, purement Internet, puisque de toute façon, en France, c'est arrivé dans les années 2000, en tant qu'Internet tel qu'on le connaissait. Avant, c'était les BBS, et là, c'était vraiment non cartographié ou scellé comme ça l'est désormais. Et après, c'était les kiosques micro comme ceux qui auraient pu, j'espère que ça fera un petit peu de nostalgie pour ceux qui nous écoutent concernant AOL, concernant CompuServe, concernant un certain nombre de kiosques micro de l'époque. Mais là, encore une fois, c'était le persistant était vraiment très, très peu et le persistant se faisait sur votre poste. Donc, comme le cloud public, comme on en parle régulièrement avec Nicolas dans un podcast, c'est que désormais, c'est plus le problème de dire on backup quelque part, c'est plutôt qu'est-ce qu'on backup à l'interne désormais, qu'est-ce qu'on doit garder à l'interne pour ça. Et ce qu'il faut rappeler, et je permets aussi de rappeler un gros point avant de continuer avant de continuer ceci, parce que dès qu'on parle évidemment de succession 2.0, 3.0 et de vie numérique là-dessus, c'est qu'est-ce que c'est que la cartographie de l'identité numérique? Ben, justement, ça fait partie, tiens, d'une des présentations que j'avais fait au Sécur 2022, c'est que dans votre cartographie d'identité numérique, il y a les expressions, les publications, votre profession, en toute logique, partira avec, mais ça sous-entend que vous avez un compte sur LinkedIn peut-être, ou un compte sur Monster, un compte sur les sites de job, la publication, vous avez peut-être, je sais pas moi, une chaîne YouTube, ou un podcast aussi, ou Flickr avec des photos, les expressions, vous avez peut-être, je sais pas moi, un blog, ou éventuellement, je sais pas moi, des posts que vous avez fait sur du Reddit, et j'en passais des meilleurs. Ensuite, les avis. Donc, les avis, ça peut être Dig, ça peut être Crosstorm, ça peut être n'importe quel point aussi où vous voudriez avoir au moins un contrôle. Évidemment, j'en parle même pas, mais c'est toutes les coordonnées. Donc là, toutes les coordonnées, c'est combien vous avez de mails? Est-ce que vous avez des avatars de mails? Où vous avez vos mails? Est-ce que vous avez vos mails? Si je prends le cas d'Emeline et moi, on est migrants par défaut. Donc, par défaut, on aurait pu avoir des mails aussi des autres pays. Moi, je vais pas tuer pour autant mes mails en .fr, donc .fr, .ca, .com et ainsi de suite. Tout ce qui est évidemment identity card ou je ne sais quoi, mais qui fait partie de vos coordonnées. La notion de réputation, ça c'est un petit peu plus, on va dire subjectif, mais ça fait partie de votre identité numérique. Les certificats, si vous avez un Keybase, un OpenID, un Claims, des certificats qui traînent parce que vous avez, un blog ou quoi que ce soit, tout ça aussi, ça pourrait se tuer de sa belle mort, mais il faudrait quand même éventuellement gérer. Les consommations, vous avez un compte Amazon, vous avez des comptes Best Buy, des comptes, puis là je parle que pour le Nord-Amérique, mais ça peut aller plus loin, compte PayPal. Donc là après, on y viendra par la suite dans la vie classique, mais je veux dire au travers des banques et compagnie, mais je veux dire Amazon, Best Buy, New Eggs, peu importe hein, si je prends ceux que du Canada, mais eBay, on va dire Kijiji pour ici là. Donc tout ça aussi en fait partie. Les hobbies, bah, si vous avez éventuellement, je sais pas moi, vous êtes un fan de vin, un fan de restaurant, là aussi vous pouvez avoir des comptes Foursquare ou je ne sais quoi, ou Corkid ou les trucs de cocktail, bon bref. Puis après, bah, les connaissances, les avatars, bah, là ça prend les jeux. Est-ce que vous êtes des aficionados des jeux? Donc vous êtes World of Warcraft, vous êtes éventuellement, je sais pas moi, LOL, ou vous êtes autre. Donc là aussi, puis comme dit d'ailleurs Nicolas d'entrée de jeu, les TikTok et autres, mais tous ces jeux-là ont des persistances. Avez-vous, je sais pas moi, $2000 de je sais pas quoi d'objets là que je sais que ça se transite, que ça peut se faire. Les gravatars aussi, parce que là c'est nos icônes et compagnie. Puis après, pour finir, bah, les audiences où il y avait à l'époque, est-ce que vous êtes dans des comptes, je sais pas moi, Tender, Mythic, tous les trucs qu'on a déjà vus qui pourraient évidemment. Je ne parle pas des sites porno, mais ça fait quand même partie de votre identité, je vous rappelle, hein, donc faites attention. Hein. Si vous allez sur YouPorn ou si vous allez sur des trucs gratuits, tout roule, mais si vous avez des comptes, il faudra peut-être les nettoyer avant ou être sûr que c'est quelqu'un d'autre peut-être qui doit les nettoyer. Donc vraiment, tout ça, c'est parti évidemment de votre identité numérique, et si ça, vous ne basculez pas, bah automatiquement, il va se passer ce qui devrait se passer. Et je ne parle pas des réseaux sociaux, où là, évidemment, Twitter, Facebook, Insta, et j'en passe, et des meilleurs, font que là, évidemment, ça génère le point. Donc, si tout ça, vous ne l'avez pas cartographié déjà d'origine, et que vous n'avez pas une hygiène de vie, de cartographie de vos comptes déjà, de cartographie de gestion, où souvent, même si vous avez un password manager, ça vous aiderait à cartographier un peu mieux les choses, même si des fois je suis plus ou moins compte des password managers, vous le savez, mais de faire que vous n'avez pas une gestion correcte année par année, parce que c'est le seul moyen que vous avez de savoir que vous étiez en 2012 ou en 2015 à tel endroit et pas ailleurs, et que derrière vous pouvez gérer, ou dès que vous avez un compte et que vous êtes sûr que vous ne l'utilisez pas, vaut mieux le détruire, bah c'est là où vous allez laisser un fardeau numérique. Maintenant, on va parler d'un fardeau numérique à ceux, si demain il vous arrive le moindre problème et que vous avez les fameux effets de bus et qu'on dit que bah, que vous tombiez malade, un accident ou que vous avez un problème, puis ça faut pas attendre 65 ans, hein, le numérique démarre dès l'âge de 10 ans, on a déjà le numérique et que ça suit évidemment son cours, maintenant en tout cas dans la nouvelle génération des générations 2000. Donc, moi je pense qu'à aujourd'hui, le gros souci pour les générations futures, c'est aussi le droit à l'oubli. Comment transférer les mots de passe, comme disait Emeline, ou en tout cas les accès les plus faciles. On parle d'accès two factor, d'accès en clé, d'accès avec des codes d'oubli, mais ça, faut les mettre. Maintenant, certains gros joueurs proposent des doubles numéros de cellulaire, des doubles accès sur certains, mais pas tout le monde. Donc là aussi, c'est bon de mettre éventuellement son conjoint ou la personne qui est en charge, évidemment, conjoint ou conjointe, hein, mais, ou la personne qui est en charge éventuellement là-dessus, parce que votre légataire testamentaire pour votre vie physique devra aussi être légataire testamentaire pour votre vie numérique, si vous voulez pas qu'on fasse. Je vous rappelle juste à titre rapide, et je repasse la parole à mes collègues, mais Facebook et Google, c'est 18 mois pour le droit à l'oubli si vous faites rien. Donc, je vous rappelle que le compte est bloqué et que si le compte est bloqué et que ça marche pas, automatiquement, vous aurez quelqu'un qui pourra mettre autant de tout ce que vous voulez sur le mur pendant 18 mois qu'il va faire. C'est déjà compliqué de faire son deuil. C'est compliqué si la personne est jeune. C'est compliqué si, évidemment, il y avait beaucoup d'activités. Si vous faites pas les choses qu'il en est, ça peut devenir un vrai cauchemar pour la suite.
Je suis bien d'accord avec toi par rapport à cet aspect-là et on insiste beaucoup aussi sur la vie numérique en ligne, mais on peut penser aussi à la vie numérique hors ligne. Tu sais, toutes les photos, toutes les choses qu'on a sur nos ordinateurs, il y en a beaucoup. Tu sais, des gens qui se retrouvent dans des situations où tu as le laptop d'une personne, tu as son ordinateur, puis là, il faut que tu le déverrouilles, mais tu n'as pas nécessairement déjà en partant le mot de passe pour ouvrir cet ordinateur ou ouvrir ce téléphone-là. Puis pour illustrer un peu ces propos aussi, pour vous montrer vous donner un exemple de ce clash-là, l'exemple des photos. Il n'y a pas si longtemps, les photos, elles étaient toutes imprimées. Et elles étaient classées dans un album photo. On écrivait à la main des choses qu'on ne veut pas oublier, des dates, des noms. Mais maintenant, ces photos se retrouvent dans les ordinateurs, dans les téléphones, dans les fichiers spécifiques, dans le nuage aussi, parfois. Donc, je suis totalement d'accord avec cet aspect que la première étape, selon moi, devrait faire le décompte justement de ce qui est important. Plus précisément, il va falloir dresser la liste de nos différents comptes. Puis ça, j'en parlais encore il y a deux jours, je donnais une mini conférence sur un ménage de printemps numérique, faire un petit ménage de printemps, pourquoi pas. Et j'en parlais de, est-ce que vous avez la liste des accès que vous avez? Et là, tu en as nommé plein. Et je pense que c'est une étape de base qui est en fait la plus fatigante probablement, mais qui est quand même essentielle si on veut savoir c'est quoi notre exposition, où est-ce qu'on est. Puis ça va être, je pense que faire l'inventaire des différents accès, des différents mots de passe, ça, c'est non négligeable. Étape numéro 2, on propose des étapes et puis vous faites ça dans l'ordre que vous voulez, mais il y a peut-être une logique quand même derrière. Pour assurer une bonne gestion de nos différents comptes et de nos actifs numériques, on pourrait se choisir un emplacement. C'est un emplacement sécuritaire de l'information. Donc, on a listé dans une première étape, mais ensuite, il faut rassembler, mettre un seul et même endroit. La manière la plus simple consisterait, puis là, vous n'êtes peut-être pas d'accord, messieurs, mais je serais curieuse de vous entendre, mais il y a des clés USB qui se vendent en ligne, qui sont avec une clé USB vraiment avec le petit pad numérique que tu peux rentrer un mot de passe, ou alors tu peux chiffrer tes choses que tu mets à l'intérieur. Donc, ça pourrait être de cette façon-là de mettre les choses en ligne pour pouvoir venir les sauvegarder, les rapatrier. Je lance le sujet par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez de cette seconde étape? Pas tout le monde en même temps.
C'est le silence complet, on est un peu
je voulais voir si Nico prenait le truc. J'adore ce petit blanc de 10 secondes. On s'amuse, hein, les amis qui nous écoutent. Vas-y Nico, vas-y, j'aimerais t'entendre.
Ouais, tout ce qui... Oui, non, c'est parce que tu sais la sécurité qui est associée à ces clés USB-là est généralement un leurre. Puis c'est là le danger, c'est que le faux sentiment de sécurité qui est associé nous fait croire qu'on peut prendre plus de risques. On revient toujours à cet aspect-là, puis il y avait des études qui avaient été faites lorsque la ceinture de sécurité est devenue obligatoire. Les gens prenaient plus de risques sur la route parce qu'ils se sentaient plus protégés dans leur voiture. Donc, on amène des changements de conscientisation. Donc, non, c'est pas parce que tu as une ceinture de sécurité que tu es plus en sécurité. C'est juste que tu vas moins de chances de mourir dans un accident d'auto. Mais tu sais, ça limite pas le fait que tu vas risquer d'avoir des blessures graves. Ça limite pas, tu sais, ça fait juste atténuer. Fait que c'est là, les gens, ça, c'est une notion que, de façon globale, les gens ne maîtrisent pas bien. Donc, si on a une clé USB, qu'on a l'impression qu'on est protégé, on va prendre plus de risques, on va la laisser traîner. Quand en effet, en général, ces clés USB-là ne sont pas si bien protégées que ça, on est capable, avec un peu d'effort, de contourner cette sécurité-là. Frank?
Alors, moi, je vais... c'est rare quand des fois, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Emeline, mais là, pour le coup, effectivement, je ne le suis pas. Pour une simple et bonne raison, c'est que de le mettre dans l'unique... Moi, l'unique me permet que c'est insécure. Peu importe si on parle de clé USB ou autre. Puis je vais même vous dire un point, c'est que peut-être que j'ai cette chance ou malchance de vivre aussi un monde numérique depuis 36 ans. Donc peut-être qu'avec l'âge de mes collègues là, j'ai peut-être, allez, je fais peut-être le vieux Goa'uld, je suis mon précieux moi-même, je fais mon vieux Frodo moi-même. Et le fait est, c'est, je m'en suis aperçu avec moi, parce que c'est une discipline que j'ai maintenant depuis plus de 10 ans, plus de 15 ans. J'ai une discipline, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, j'ai un passeport défamilial qui est fait une fois par an parce que je veux savoir ce que fait mon fils ou je veux savoir que ma femme ne me met pas en danger ou ainsi de suite. C'est toujours le même débat. On a aussi une vie numérique où je vais sûrement faire dans ce password day ou une autre journée aussi genre numérique dès de la famille la Mavie Franky pour éventuellement voir ce qu'il en est, quoique je les surveille assez régulièrement à l'avantage d'avoir nos outils à l'interne. Mais ce que je veux dire, c'est que moi-même, je me fais ma propre violence. Et je me suis aperçu que la problématique de la sécurité, ça fait quand même 30 ans que je suis, enfin, 20 ans que je suis là-dedans, c'est que c'est le quotidien qui nous ennuie de le faire à un moment donné tout le temps. Pour organiser son temps, on dit souvent, fais pas tes mails tous les jours, prends plutôt 4 heures à la fin de la semaine, fais tes mails pendant 4 heures et tu vas organiser ton temps et optimiser ton temps. Ça, c'est vrai, je peux vous le dire, que pour d'autres raisons, et on n'est pas multitâche, hein, les humains, en toute logique, on croit l'être, mais c'est pas vrai. Et Dieu sait que c'est le gars qui vous parle, qui fait 36 000 choses à la fois, mais on n'est pas, je suis comme Emeline, moi, faut qu'on me challenge tout le temps, mais mon cerveau part tous les jours, donc faut que je me dégage à un autre endroit pour être sûr et certain que je vais pas aller fouiller à côté. Et puis ça, je me suis aperçu que c'était ma déviance intellectuelle et ma déviance de toc, de vieux schnock à l'idiotie pour la suite, c'est que pour la sécurité, si vous le faites pas tous les jours, ça va vous fatiguer, vous ne le ferez pas. Et ça, de le mettre dans une clé USB, de le mettre dans un disque, de le mettre... allez, vous achetez même, je sais pas quoi, un Burin, la nouvelle technologie des cryptoactifs là, pour mettre les 24 mots avec du marteau Burin pour aller le notifier et puis l'enterrer dans son jardin comme à l'époque. Là. J'aime bien, on enterre plus l'or maintenant, on enterre les clés pour les crypto-monnaies. Ça marchera pas parce que le but du jeu de réussir ce genre de choses est le faire au quotidien. Plus vous le faites au quotidien et plus vous le divisez pour mieux régner, ben c'est le moment de le dire, c'est ça qui génère la sécurité, plus vous allez réussir à vous sécuriser vous-même. C'est-à-dire, et quand je dis au quotidien, maintenant vous me dites, on donne notre vie à ProtonMail, ou on donne notre vie à Google Mail, ou on donne notre vie à peu importe. Maintenant, le premier mec en sécurité, même de ceux qui nous écoutent, je l'attends et je suis profondément, parce que c'est une des presses que j'ai prévues et que j'ai, ça fait 20 ans et 10 ans que Nicolas me connaît et que je suis fait, qui me dira qu'il est capable de vivre sans Google à plus de 2%, puisque 98% de Google nous prend notre vie au complet. J'ai perdu la bataille et j'ai perdu la guerre. Donc, j'ai pris conscience que ça, je vais l'utiliser à mon avantage. Donc, mon Gmail, mes profils, mes bookmarks sont protégés avec une mot de passe ou est-ce que oui, il peut le déchiffrer? Sûrement, mais qu'est-ce que j'en ai à secouer? De toute façon, c'est Google. Et au niveau de mes mails, ils sont faits. Bah, à moi de coder mes mails. Puis, il n'y a que moi qui peux les coder à ce niveau-là. Donc, je vais vous le dire. Oh, j'ai rien à cacher. De toute façon, c'est tellement protégé et compagnie. Mais moi, c'est dans ton mail et Gmail. J'ai l'intégralité de ma vie depuis ces 20 dernières années. Et tout est géré au quotidien. C'est ça qui me permet de tenir le choc. Et j'ai que deux entrées. J'ai une clé YubiKey que mon épouse a, qui transforme et qui remplace mon téléphone. Et mon téléphone, s'il disparaît parce que j'ai un accident ou quoi que ce soit, ben, elle est pas bloquée pour avoir. Et si elle a un Gmail, elle a un répertoire qui s'appelle Céline. Et elle sait comment gérer les trucs. Et comme on a normalement rien à cacher, ce qui est le cas, elle connaît évidemment mes 4 niveaux de mot de passe. D'ailleurs, on le fait en même temps et on se l'avantage à se le générer et on se fait des simulations pour pouvoir le faire. Mais si je faisais pas ça, qu'on me dise demain, au fait, tiens, aujourd'hui, c'est la journée complète d'aller vérifier tes trucs, et puis tu le mets dans une clé USB qu'on va l'oublier, qui va pas marcher, ou comme dit Nicolas, qu'à ces sentiments d'être sursécurisé puis qui est pas vrai, Parce que la plupart du temps, il y aura toujours, c'est du physique. Donc, s'ils ont oublié quelque chose, si vous n'avez pas mis à jour le firmware, si je ne sais quoi, si vous l'enterrez, il y a un peu trop d'humidité, vous la rentrez, bingo, elle marche plus. Oh, bah, super. Là, pour le coup, j'ai tout paumé. Je l'ai mis à un endroit, pas de bol, les mecs, ils ont cassé le terrain que j'ai fait ou ils ont, il y a un dégât d'eau. Ah, puis fait chier. Donc, faut que je la mette dans un truc qui soit en hermétique, en eau, en machin. Enfin, bref. Ça marchera pas. Donc, Google demain. Et pour ma part, au niveau pareil aussi numérique, vivons avec notre monde. S'il explose, il y a deux raisons. Soit Poutine a gagné, soit il y a des extraterrestres qui ont descendu. Dans les deux cas, on ne sera pas là pour vous en parler. Hein, il y aura d'autres problèmes pour nous tous. Là. Donc, pour ma part, je pense que le mieux possible est encore une fois, la sécurité, c'est toujours de distiller les affaires. Hein, pourquoi la caisse du nucléaire, on fait trois personnes qui ont les clés, hein, c'est parce qu'on ne veut pas un seul endroit, c'est toujours le même débat. Bah, on va pas réinventer la poudre, mais tout ce que moi je peux vous dire, c'est que c'est pas le choix que vous allez prendre. Maintenant, je vous laisse le choix, je dirais que vous êtes tous adultes, conscients et avec tous les diplômes et barthés de diplômes qu'il faut pour prendre le recul. C'est de le faire au quotidien. Si vous ne le faites, et quand je dis au quotidien, c'est pas spécialement non plus tous les jours, après ça dépend de votre masse évidemment de points, mais si vous le faites pas au quotidien, vous ne le ferez jamais. Donc ça, c'est le but du jeu de le faire, c'est une discipline et une hygiène de le faire au quotidien. Et ça, vous allez à réussir à le faire, surtout si vous avez des cryptoactifs aussi, parce que c'est la nouvelle génération, surtout si vous avez tous les sites de jeux qu'on connaît et compagnie, surtout si vous êtes avec du gambling, si vous le faites aussi, tous les sites aussi, quand je dis jeu, c'est jeu PC, enfin jeu en ligne, ou jeu, genre jeu d'État, des jeux de roulette, les jeux de jackpot, là, les jeux de casino, pardon, je cherchais le terme. Et puis pour finir, si vous faites de la finance décentralisée ou si vous faites de la finance un peu genre avec des rings, avec du mining et compagnie, de surcroît, encore une fois, avec tous les comptes, les wallets, les non-custody, les custody, les machins, les bidules, les trucs, mon Dieu, il y a un moment donné, vous allez... Parce que maintenant, de toute façon, à chaque fois que vous faites quelque chose, il faut obligatoirement un profil. Si vous avez un profil, vous avez une persistance. Si vous avez une persistance, vous avez un mot de passe. Si vous avez un mot de passe, trop tard, faut le notifier. Ça y est, c'est fini, terminé, faut le notifier. Si vous ne le notifiez pas, d'entre moi, vous l'oublierez, surtout si c'est quelque chose que vous faites une fois, comme les logiciels. Hein. En fait, j'ai oublié tout à l'heure au travers des lignes, c'est comme les logiciels. Tous les logiciels que vous achetez, les logiciels qui sont font maintenant les licences sont souvent annuelles, tous les groupes aussi numériques au fait, hein, Disney, Netflix, j'ai oublié, hein, Disney, Netflix, Prime et compagnie, souvent c'est quand même un seul gars, puis en plus on se les partage des fois en famille, faut pas le dire, en fait, c'est interdit, mais bref, donc tout ça est aussi important à savoir que il faut le sauvegarder, il faut le gérer, donc... Non, Emeline, je suis pas pour le côté matériel. Mais en tout cas, je suis pas pour le côté unique et qu'une seule fois, je suis pour le côté démultiplier, mais le faire assez régulièrement.
D'un autre côté, on dit aussi souvent que, et en tout cas, c'est peut-être moi qui le dis, vous n'êtes pas d'accord avec ça non plus, et ce serait correct, mais qu'il y a différents niveaux de sécurité aussi. Une personne, tu sais, il y a la sécurité super sécuritaire, et encore, on peut pas être sécuritaire à 100%. Je pense que ça, on est probablement d'accord avec ça. On peut pas être sécuritaire à 100%. Par contre, quand on a une personne en face de nous, elle va pas avoir le même niveau de sécurité, la même tolérance à la sécurité ou à l'insécurité qu'une autre personne. Donc, ce qu'il faut aller chercher, probablement, c'est une certaine équilibre, une certaine balance, de dire, ben, entre sécurité et fonctionnalité, où se situe cette personne-là et c'est quoi son sweet spot? C'est quoi l'endroit où est-ce qu'on arrive à avoir de la sécurité et on arrive à ce que cette personne-là l'utilise aussi? Donc, peut-être que la clé USB, effectivement, était un petit peu trop intense dans le sentiment, faux sentiment de sécurité que ça amène. Mais d'un autre côté, la nouvelle idée qui est amenée, qui est de le faire au quotidien, et peut-être un petit peu dans l'autre extrême aussi. Donc, on laisse la porte à... Il y a probablement un entre-deux. Il y a probablement quelque chose qui existe et on n'a pas la réponse parce qu'on est en train de brainstormer probablement avec vous qui nous écoutez. Mais il y a forcément un sweet spot aussi qu'on peut aller chercher, un entre-deux qui pourrait être intéressant et pertinent parce que notre troisième étape, ça va être de communiquer. La troisième étape, ça va être... Bon, on a identifié les choses, on les a... Il va falloir communiquer avec le liquidateur, communiquer avec le successeur, la personne qu'on aura désignée. Il faut identifier qui pourra avoir accès à ces informations-là lors de notre départ. Et si je venais à décéder, mon conjoint, ma conjointe saurait que c'est, admettons, sur cet appareil, si c'est une clé USB, mais aura su aussi dans le quotidien comment accéder aux fichiers, comment accéder aux choses dont il ou elle a besoin. Si on décède tous les deux, bah là, il faut trouver d'une façon, probablement dans le testament avec un avocat, de pouvoir mettre ces choses-là à l'intérieur de ce testament-là. Mais le gros défi, ça va être ça, c'est de dire, bah, c'est bien beau, étape 1, on a dressé la liste de tous nos comptes, mais maintenant, il faut trouver une façon d'aller à l'étape 3, de dire que bah, quand on sera plus là, il y aura quelqu'un qui va s'en occuper, puis comment je transmets ça à cette personne-là. Donc, je pense que c'est l'étape 2 qui nous manque encore, puis on va probablement apprendre à la découvrir aussi, mais c'est pas évident, et je pense que, comme tout en sécurité, il n'y a pas une seule et même réponse. Il pourrait y en avoir une si on a le même niveau de tolérance, sauf que c'est pas le cas nécessairement, puis de se dire, ok, tout le monde, prenez-vous un moment avec votre conjoint, conjointe, pour en discuter, bah, c'est pas tout le monde qui va le prendre, ce temps, c'est peut-être pas réaliste pour tout le monde, il y a peut-être des gens qui sont seuls aussi et qui, en ce moment, pour eux, le défi numéro un, c'est de définir qui va être cette personne qui va avoir ce rôle primordial. Donc, c'est plein de réflexions et je sais pas si les notaires se posent la question aussi, probablement qu'eux aussi doivent se poser d'une certaine façon ces questions-là. Mais concernant l'étape numéro 3 par rapport à la communication, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez des choses qui font le lien justement entre l'étape 2 et l'étape 3?
Encore une fois, je laisserai Nicolas aussi surenchérir, mais c'est comme je le disais à l'instant, pour le fait de le faire tous les jours, c'est de communiquer. C'est sûr, si vous n'avez pas de communication, déjà dans la vraie vie, il en faut, en toute logique, entre couples, puis peu importe quel type de couple ou quel type de manière au travers familial. Il ne faut pas oublier aussi, pour certains, et c'est la nouvelle vague, même si je ne veux pas choquer avec ce que je vais dire, mais il y a beaucoup de familles recomposées. Donc, il y a souvent des ex-femmes ou des ex-maris, donc... qu'est-ce qu'on fait aussi? Parce qu'il y a souvent après un trait d'union là-dessus, c'est qu'il y a des enfants, la plupart du temps aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'ex-femme ou l'ex-mari avec les enfants et qui fait quoi, de quelle manière? Donc, souvent, ces gens-là se refont aussi une famille. Donc, de surcroît, ça décuple, évidemment, les belles-mères, les beaux-pères, les grands-parents, et décuple aussi que s'ils ont de nouveau des enfants, ça décuple aussi les informations. Donc, autant les informations pour dire... à qui je donne la partie testamentaire déjà de la vie au quotidien, mais en même temps les accès. L'ex-femme pourrait dire pourquoi moi j'aurais pas plus accès que la femme actuelle vu que j'ai aussi les enfants de cette manière. Donc bref, tout ça en termes de communication, faut que ça soit clair dès le départ. Déjà dans la vraie vie, ça doit l'être, mais alors dans le numérique encore pire. Surtout que ces gens-là ont aussi une vie numérique, donc ça va dans les deux sens en plus. Hein. N'oubliez pas que c'est asynchrone, là, c'est pas synchrone. Donc par défaut, je vous dirais que c'est la communication qui prime. Là, je voudrais pas qu'on fasse que toute cause polysécure devienne une sorte de truc philosophique, genre thérapie pour couple, hein, ou thérapie pour personnes qui ont mal en communiquant. Mais c'est ça, la sécurité arrive à dire, il faut qu'on se parle. Parce qu'il n'y a pas le choix, les gens ne se parlent pas. Faites pas du DevOps ou du DevCacaOps, comme j'aime encore le dire. Je vais me faire tuer avec ça, mais j'adore le préciser. Nicolas me l'autorise, alors c'est cool. De faire que les TI ne discutent plus avec les développeurs ou compagnie, ne faites pas comme toute l'industrie informatique à se réinventer des buzz et des layers et compagnie. Là, on parle de la vraie vie, de sentiments de famille. Alors après, il y a des gens qui s'entendent plus. Bah, si c'est pas le cas, bah, faites des lettres, passez par des avocats, passez par évidemment des hommes de loi. Pour répondre à ta question, Emeline, moi, je sais que j'ai une notaire qui est très jeune et qui, en l'occurrence, maintenant est quand même active depuis plus de 5-6 ans, mais qui est quand même dans sa jeunesse jeune et elle a déjà la notion du notaire 2.0. Elle nous pose et elle nous a déjà posé des questions sur un certain nombre de points là-dessus. Mais c'est sûr que les notaires, à titre légaux et au niveau même des cadres et de la loi, au niveau de cette évolution, est une loi qui... ça a mis beaucoup de problématiques. Pourquoi ? Les gens qui font la loi ne connaissent même pas le monde numérique en tant que tel. Donc, encore une fois, nos États faillent à ce niveau-là. Nos législatifs faillent aussi parce qu'ils ne prennent pas en collégial, où ils ne mettent pas les gens. Tu sais, c'est bien beau, comme à Québec, de mettre un MCN, mais il faudrait aussi que ces gens-là parlent aussi aux gens de la loi et puis qu'au niveau des gens de la loi, qu'on sache le faire. Mais quand on entend... certains ministres nous dire que l'identité numérique passera par notre identité faciale, je commence à avoir un peu des sœurs froides qui me montent, parce que je vous rappelle aussi que à Shenzhen, ou si on prend les Chinois, maintenant il y a aussi, on en avait déjà parlé dans l'ancien podcast là, que il y a les fameux droits sociaux au travers de ta vie numérique aussi, c'est-à-dire est-ce que tu payes bien tes impôts, tu traverses dans les clous, est-ce que tu payes tes trucs et compagnie, puis après on va te dire bah on va t'attribuer un numéro, puis si t'as en dessous de 5, t'auras pas le droit de prendre d'avion. Et on n'est pas loin, hein, à un moment donné, de faire ce genre de conneries. Donc ça aussi, il faut faire attention à faire que la loi doit bouger. Mais ça, ça fait partie du monde du peuple. Quand vous faites un truc de peuple, hein, quand on dit qu'on doit voter, quand on dit qu'on doit gérer, c'est on doit aussi remonter un petit peu tout ça en législatif pour dire, il serait peut-être temps d'aller faire évoluer nos putains de lois. Si je prends notre ancien pays ou le mien français, il y a encore des lois de Louis XIV qui prennent, donc je vous dis pas le problématique pour faire changer. Hein. Vous avez déjà vu le code civil, le code de la famille ou le code pénal, c'est énorme. Donc par défaut, je te dirais que moi, aujourd'hui, j'attends pas non plus que les ricains et que les entreprises américaines fassent la loi eux-mêmes, parce que ça, on l'a déjà vu. D'ailleurs, je me refais pas une pub, mais allez voir sur Internet, vous allez comprendre, c'est au Sécur, vous allez comprendre qui appartient quoi. Donc, c'est pas ces gens-là. Eux, plus vous allez leur en donner, mieux ils vont se porter. Donc, c'est tout ça qui se mélange. Et si tout ça, vous ne le prenez pas pour vous-même et que vous le faites pas pour vous en tant que communication, gestion, partage, c'est-à-dire dire, écoute, on met de côté nos affaires pour tous ceux qui, des fois, peuvent pas se parler, ou pour ceux qui peuvent parler, écoute, il faut vraiment qu'on prenne une journée pour faire comme les pompiers, des fois. En fait, il faudrait voir qu'on puisse éteindre le feu. Est-ce qu'on est capable de l'éteindre? Est-ce que tu sais où est ta clé? Tu sais mon mot de passe? Qu'est-ce que tu connais mon mail? Tu connais toutes mes affaires à ce niveau-là? Ben là, pour le coup, oui, c'est important de le faire, parce que le jour où ça arrive, il y a déjà tellement de choses à faire, tellement de points qui sont gelés, tellement de trucs qui sont faits déjà dans la vraie vie, au travers bancaire, au travers évidemment des droits de succession, même maison, condo, enfin je veux dire de la vraie vie physique. Ben, je vais vous dire, si vous devez en plus repartir sur la vie numérique, moi quand je vois tous ceux qui sont de mon entourage et qui ont perdu des gens et des choses, moi j'ai même là c'était de l'autre côté de l'Atlantique, j'ai perdu mon père il y a 2 ans, et de voir un petit peu ce qu'il en est, de voir ce qui doit être fait, mais là ma mère est encore vivante, donc c'est évidemment plus facile quand le couple, il y en a un plus vivant, et mon père n'était pas du tout numérique, mais quand je vois déjà la masse de choses qu'il y a à faire, je me dis que si on se cumule le numérique derrière, on se tire une balle dans le pied, parce qu'en plus, les gens en face, ah bon? Là, je vais vous expliquer un truc, sans dire de nom, j'ai un de mes amis, son père vient de se faire arnaquer, comme l'arnaque que vous avez dû voir passer au décrypteur d'un monsieur qui s'est fait voler $1 million où les gens font vrai. Ce monsieur-là est à la retraite. Il a donné accès à son PC par Inidex ou TeamViewer à un gars pour aller faire les crades à sa place pour qu'il lui vole le truc. Imaginez les gens, comment déjà on parle de sécurité, on n'est pas au même niveau là, vous imaginez le problème? Donc là, c'est bon, bref, il y a eu fuite d'argent et fuite de trucs et compagnie, mais vous imaginez que lui, il a porté plainte à la police pour dire qu'on lui a fait ça, puis que c'était dans du crypto-actif, donc dans du Bitcoin. Et la première chose que la dame de la SQ a fait, c'est quoi Bitcoin? OK? On en est là en 2022, là. Une flic qui dit, et comme il dit, hein, elle avait 30 ans, la flic, hein. C'est quoi Bitcoin?
Non, mais faut tellement que je raconte une anecdote par rapport à ça, et je m'excuse de t'interrompre, mais c'est parce que ça.
Non, mais bien au contraire.
Les gens n'ont pas vu mon non-verbal et m'ont pas vu réagir, mais ça, on a vécu quelque chose comme ça. Tout le monde, pas tout le monde le sait, mais j'ai déjà parlé ouvertement du fait que l'année dernière, on était en vacances en France et on s'est fait cambrioler chez la famille où est-ce qu'on était. Et bien entendu, ben, un des cousins, il avait sa clé Ledger et il a perdu ses 12 mots. Ou je pense que c'est 12 mots, il me semble. Hein. En tout cas, c'est quelques mots pour avoir. Avec là, plus de clé USB, on se fait justement avec les USB là-bas, tout centralisé, la clé Ledger, et bon, on va au poste de police pour porter plainte, machin, et le policier qui dit, ah oh, bah tu sais, pour la clé USB, c'est pas très grave, pour la crypto-monnaie, t'as juste à changer ton mot de passe. Non, mais t'as pas compris, il y a un élément hyper important, il manque là. Si la personne a accès aux 12 mots, mot de passe, pas mot de passe, c'est pas une question de mot de passe. Donc bref, ma parenthèse, est... mais je voulais réagir par rapport à ça, clairement.
C'est dramatique de voir aujourd'hui ce que je disais à l'instant avec évidemment les législatifs et compagnie, c'est qu'à aujourd'hui, toutes les personnes qui doivent déjà gérer le quotidien physique des gens fait qu'à aujourd'hui, les personnes qu'on a à faire derrière pour leur dire, au fait, on s'est fait piquer ça, cambrioler ceci ou piquer cela, ils sont à milieu de comprendre ce qu'il en est. Alors oui, si vous faites partie de la cybercriminalité, du safety, du truc, du... Ouais, c'est un groupuscule de quoi, d'une cinquantaine de personnes en France qui fait partie, moi, j'en connaissais deux, trois de l'époque, qui oui, mais encore une fois, c'est 50 personnes sur 67 millions d'habitants. Et si je prends le Québec, c'est quoi? C'est peut-être encore une fois une cinquantaine de personnes sur 8 millions d'habitants, donc c'est, et encore. Et si je prends le Canada au complet, ça aussi, ça doit se cumuler à peut-être une centaine de personnes. Tu te dis, ouais, mais au secours, on fait comment? Je vous rappelle quand même en date qu'ils savent, et d'ailleurs, ça a été très grave au travers, même si je ne reviens pas sur le débat philosophique, mais la partie d'Ottawa avec le fameux comment, convoi de la liberté là, pour le truc là, qu'ils ont ennuyé, là, je ne reviens pas sur ce qu'il en est, mais ils ont, je vous rappelle, réussi à bloquer sur du crypto-actif les comptes bancaires. Tiens, c'est marrant, on voulait bloquer le pognon, vous savez de quoi on parle. Quand c'est pour protéger des gens et qu'on dit qu'on s'est fait voler, oh, on ne sait plus de quoi on parle. Non, on peut pas avoir deux poids de mesure, que comme par hasard, quand vous voulez bloquer des choses, vous savez les bloquer, vous savez chercher les gens pour savoir comment les bloquer, mais quand on veut nous défendre en tant que citoyens, là, comme par hasard, il va falloir donner certaines explications et qu'on ne sait pas ce qu'il en est. Non, je veux dire, il n'y a pas deux poids de mesure. Là, on a dépassé les bornes, en tout cas, je pense qu'ils ont dépassé les bornes, en tout cas, à ce moment-là, sur un certain nombre de points. Peu importe, ils avaient le droit effectivement de dire ils ont gêné et compagnie, mais il y avait d'autres moyens légaux. C'est-à-dire, s'il y avait gêné, fallait prendre les grues, fallait prendre l'armée, fallait prendre, je sais pas moi, les flics, les arrêter sur place, mais pas outrepasser vos droits législatifs de dire sur du crypto-actif qui soi-disant anonyme avec des banques soi-disant gna gna gna. Puis là, comme par hasard, on est capable de geler tous les trucs. Ah, tiens, c'est bizarre, quand ça vous arrange, on sait où trouver l'affaire. Donc, c'est bien les fameux 5 Eyes, 9 Eyes, 14 Eyes. Hein, vous vous rappelez du truc, je vous renvoie à ma présentation. Quand vous battez contre l'État, l'État vous piège. Je veux dire, c'est facile à gérer et c'est facile à faire. Donc, dans votre vie numérique, et pareil, c'est exactement la même chose. Mais quand vous voyez qu'un flic n'est pas capable de comprendre un bitcoin, comment voulez-vous faire votre plainte pour dire « Écoutez, on m'a volé ci, on m'a volé ça. Oh bah puis j'avais en plus mon wallet hot qui était sur mon cellulaire de je sais pas quoi qui était fait. Mais vous le paumez, c'est fini, terminé, il y a plus personne en face. Et là, il n'y a pas d'assurance. Parce que ce qu'on n'a pas encore parlé, c'est toutes ces assurances-là aussi pour les gens. Parce qu'il y a des assurances vie, mais les assurances sont en train de travailler aussi sur des assurances numériques. Comment on les assure, les numériques? Comment on assure une clé, comment on assure un wallet, ou comment on assure éventuellement nos mots de passe? Comment on assure un captif ou un actif numérique? Combien je pèse, moi, en numérique? C'est bien là le problème. Quand vous avez éventuellement vos ETF, FNB en québécois, quand vous avez vos ETF, vos actions et compagnie, que vous avez votre zone d'action et que vous êtes en banque, en toute logique, c'est votre banque, puisqu'elle fait partie de l'OPVCM et elle fait partie des groupes où elle vous assure, évidemment, les pertes voulues si au cas où elle est fermée. Je vous rappelle que si vous voulez mettre beaucoup, beaucoup d'argent, passez quand même par des banques, parce que malheureusement, pour le moment, il n'y a pas le choix. Ou en tout cas, des banques systémiques. Au moins, en étant des banques systémiques, c'est comme Google, il faut des extraterrestres ou Poutine pour que ça s'arrête. Donc, ça, c'est déjà un point aussi de sécurisation. Maintenant, vous voulez aller sur Qtrad, Wealthsimple et compagnie, vous voulez. C'est des boîtes privées. Et encore une fois, hein, là, moi, j'ai pas la clé de la boîte privée. C'est du sexe. Ah, j'adore. Je savais que j'allais te la passer, Nicolas. J'allais te la faire, celle-là. Le centralisé exchange, hein, mais le CEX, je dis sexe, mais non, ah, mauvais pour les gens qui nous écoutent et qui croyaient que j'allais avoir un truc, au lieu du DEX, pour le décentralisé exchange, c'est ça le problématique. Et là où je lance encore un point pour que Emeline ressaute là-dessus pour le dernier point, c'est quoi le Web3 demain? On parle de Web3, et le Web3, c'est maintenant plus, c'est plus trop un buzz, c'est la décentralisation des affaires. Donc, la décentralisation des affaires, ça veut dire que demain, vous devenez vous-même responsable de votre pognon, de votre crypto-actif, de vos affaires, de vos gains, de vos clouds que vous voulez plus centraliser. Est-ce que vous allez centraliser même vos systèmes de finances? Comment vous allez gérer vos systèmes de finances? Ben, si ça, vous n'avez pas une hygiène pour la suite des événements, ben, vous allez encore une fois redonner la clé à quelqu'un à côté qui va nous centraliser cette affaire-là. C'est ça qui est complètement fou. Internet était pour décentraliser, mais il a recentralisé, ou en tout cas appartenu qu'aux États-Unis, pour une grosse partie. Puis là, on veut centraliser, mais là, on veut redécentraliser. On va dire, ben non, faut que ça soit une sorte d'Internet. Donc, on a inventé Tor de l'époque, on a inventé machin de défi désormais. Et là, c'est le Web 3 avec la notion des blockchains pour faire de la base de données décentralisée ou distribuée et de partir sur des notions où nous-mêmes, on va maintenir des serveurs à la maison. Et si c'est le cas, OK, mais là, il est où le droit à l'oubli? Il est où le droit à dire, ben ouais, mais là, moi, je voudrais pas que ça reste vitam aeternam. Ben ouais, trop tard. C'est comme le droit du blockchain d'identité. Là. Il est où mon droit à l'oubli? Il est où mon droit au machin? Donc, tout ça va se commencer à se confronter et à se battre. Là. Moi, je vais vous dire, on n'est pas prêt de... Là, ça va être des grosses batailles dans les 10 prochaines années par rapport à tout ça. Donc, parce que le Bitcoin, c'est mort. Hein. Personne ne l'arrêtera. Ça fait 10 ans, tout le monde l'entend. Hein. Blockchain, Bitcoin. Et Bitcoin, 16 000 nœuds là, aujourd'hui, là. J'ai arrondi, là. 16 000 nœuds autonomes. On a beau faire, on a beau dire, même un Bitcoin qui s'arrêterait demain, ça le mettrait. Alors, les 51% de supercalcul et compagnie, le mec, s'il le fait, il est con, puisqu'il n'y a plus de valeur. C'est le bien qui est le bien commun. Pour une fois qu'il y a quelque chose qui fait que c'est le bien commun qui triomphe et non pas le mal, parce que sinon, sa valeur tomberait de 30, 40 000 là, aujourd'hui à 1 dollar. Donc, c'est là où ça fait résonner en disant, dites les gars, si c'est du Bitcoin, ça sous-entend que là, c'est du... Il n'y a pas d'État qui fait, c'est les gens qui décident, c'est le sel des années, vous savez, le SEL, le truc des trocs et compagnie des années 80 qui revient. C'est la confiance entre les gens. Et encore une fois, on est dans du DEX. Donc là, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Ethereum, lui, trop tard, hein, il a donné tout ça aux banques. Donc c'est fini pour cette partie-là. Donc c'est pour ça que ça va être vraiment compliqué pour la suite des événements si nous-mêmes, on ne prend pas Si là, je veux vraiment passer un message par rapport à toutes ces étapes, si vous ne prenez pas conscience de tout ça vous-même au travers de votre propre initiative de sécurité et d'identité numérique et d'actif numérique, peu importe qu'est-ce qu'on appelle un actif numérique, je ne parle pas de crypto-actif, même si là, c'est galvaudé, parce que on pourrait aussi que vos actifs pourraient chiffrer. Donc, le fait est, c'est que par défaut, il va falloir être sûr et certain de garder à soi pour être responsable. Et oui! C'est ça la sécurité, c'est d'être responsable et imputable. Il change évidemment de beaucoup de personnes au travers de certains gouvernements. Voilà, c'est pas moi, c'est lui. Hein, on est d'accord, Elena?
On ne peut plus d'accord. Je pense que ça va venir avec des enjeux aussi parce que les gens ne sont pas nécessairement prêts à prendre ces responsabilités-là. Puis bon, ça va amener des enjeux, je pense. Donc, il y a beaucoup d'étapes qui sont sautées. Quand on parle d'une personne prenne la responsabilité, il faut déjà qu'elle soit consciente, qu'elle soit sensibilisée à tout ça. Et je pense que c'est la direction dans laquelle on travaille tous très, très fort aujourd'hui à sensibiliser ces humains-là. Je veux revenir aussi sur, probablement, on va s'enligner tranquillement vers la fin aussi, mais on a beaucoup parlé de nous, notre préparation à cette succession 2.0, mais soyons quand même indulgents avec les gens à qui on va mettre ce fardeau là aussi, tu sais, quand on sera parti. Et moi, j'ai juste à voir la tête de ma mère quand je dis, maman, on a pris une assurance vie, voici la carte de la personne que tu devras contacter s'il nous arrive quelque chose. Ben, son visage s'est décomposé. Donc, j'ai peut-être pas eu la meilleure approche pour lui passer la nouvelle. Donc, ça aussi, de la personne qu'on va nommer, qui va avoir ce transfert de responsabilité-là, de l'accompagner là-dedans. Parce que tu le dis, il y a plein d'émotions qui vont passer au travers. Et c'est bien normal, c'est tout à fait normal. Donc, d'être tout doux là-dedans aussi, ce serait peut-être ma dernière petite recommandation.
J'ai pas entendu Nicolas sur le reste. Attends, je vais éteindre mon mieux. On va vous le faire parler, notre Nicolas.
Oui. Ah oui, je suis capable de parler, je ne vois. Dans le fond, tu peux me faire rebondir sur la communication dans essentiellement dans le couple, étant donné qu'il faut valoir justement que cette information soit partagée. Moi, l'exemple que j'ai, c'est même si toi, tu n'aimes pas les voûtes de mots de passe, moi, j'ai une voûte partagée. C'est dans laquelle les mots de passe qui sont importants sont placés. C'est un peu le même principe que toi, mais d'un moyen différent. Fait qu'on partage ce genre de choses-là. Puis, Là, on vit dans un monde où la confiance entre les gens, c'est énormément effrité, puis même dans les couples également. Fait que là, on aborde un volet où les gens devront réinitier une confiance dans leur couple, ne plus cacher des choses dans leur couple, parce que dans le fond, on est un binôme, on est un ensemble. Moi, je le vois comme étant une entreprise, parce qu'on est plusieurs à travailler dans le même sens. Donc, on est comme un groupe qui a des intentions communes. Puis on travaille dans cette perspective-là. Moi, j'ai pas de difficulté à partager mes mots de passe. J'ai pas de difficulté, pas tous, mais la plupart. Puis sont accessibles dans la voûte commune, dans certains cas, un certain nombre de choses comme ça. On a une panoplie de mécaniques qui sont déjà été établies de ce côté-là. C'est pas parfait. En tout cas, c'est encore moins parfait que ce que Frank a mené de front. Mais effectivement, j'ai déjà amorcé ce changement-là dans lequel on est en train de basculer vers ce partage-là. Mais je parle pas juste de partager mon mot de passe Netflix, ça qui est de facto partagé. On parle de mot de passe un peu plus, on pourrait qualifier sensible, ça peut être Proton Mail ou Gmail, par exemple. Mais ces mots de passe-là, oui, effectivement, sont aussi dans cette même voûte-là. C'est sûr que je fais également confiance à ma conjointe de ne pas venir fouiller. Ça aussi, c'est un autre aspect très important parce que dans certains couples, le goût de fouiller la vie de l'autre est très présent. Faut savoir dans quelle mesure on partage, mais on fouille pas. Ça aussi, c'est un sujet très sensible. Je suis pas sûr que c'est présent dans la plupart des couples, par exemple. Donc, c'est tous des aspects à regarder, à évoluer, des éléments comme ça. Fait que oui, partage, oui, il faut faire des éléments comme ça, quitte à mettre dans une voûte chez le notaire, par exemple, parce que Frank parlait de notaire plus apte à ce genre de choses-là, donc de nous amener à déposer en notariat ou dans une voûte à la banque ou peu importe la structure, si vous êtes dans une zone un peu moins grande confiance dans laquelle, par exemple, moi, je me retrouve, ben au moins de mettre ces choses-là à ces endroits-là pour que les personnes puissent récupérer. Un des exemples que j'ai, puis moi, il est très présent dans ma vie, j'ai eu un problème de santé très important il y a à peu près presque une dizaine d'années maintenant, dans lequel j'ai failli laisser ma peau. Mon ex-conjointe avec qui j'ai eu des enfants était inquiète à ce moment-là parce que si j'avais eu à disparaître, puis c'était effectivement valide à cette époque-là, la plupart des données que j'avais étaient inaccessibles parce que tout chiffré avec des mots de passe qui sont virtuellement impossibles avec la technologie actuelle à casser dans un temps raisonnable. Donc, elle perdait l'ensemble des photos d'enfants, perdait une panoplie de choses comme ça qui sont des avoirs communs finalement puisqu'on a des enfants ensemble. Donc, elle perdait toutes ces affaires-là. Fait qu'elle avait soulevé ce point-là. C'est très valide. Puis depuis ça, là, mes choses ont structuré. Puis c'est là où moi, j'ai eu mon réveil de succession 2.0 où j'ai effectivement commencé à réfléchir sur le fait que mon Facebook, dans les faits, ça ne me dérange pas tant. Mais le fait que les gens autour de moi soient pénalisés de par mon manque de rigueur sur la préparation au passage de l'autre côté aurait pu avoir des effets plus tristes et plus dommageables sur les émotions des gens. Tu parlais d'émotions, mais effectivement, c'est un volet où il faut que les émotions des gens soient considérées et on se prépare sur ce genre de choses-là pour justement atténuer l'effet émotif qui est quand même très grand par rapport à ce genre de situation-là, justement pour nous amener de l'autre côté.
Oui, mais il faut comprendre aussi dans ce que tu dis, c'est que l'aspect aussi numérique est aussi un aspect où vous avez le dossier santé. On n'a pas encore parlé de l'aspect santé, là. Mais pareil, le dossier numérique du dossier santé ou le dossier passant, il est quand même activé aussi au travers du Québec, parce que maintenant, si je prends la ville de Québec, c'est OCHU et vous avez accès évidemment à tout ça. Donc, il faut aussi en même temps... Alors, c'est sûr que quand la personne est décédée, elle n'aura plus de problème de santé, je me comprends, mais je veux dire que par défaut, l'accessibilité aussi à un certain nombre de choses est importante. Pareil aussi au niveau des, j'aime bien le terme de ce que Nicolas disait, des assets communs, quand il y a évidemment partage de, quand c'est famille recomposée ou quoi que ce soit, mais même un partage au travers évidemment de la famille en tant que telle, parce que si vous avez mis, je sais pas moi, un as de partage, mais qu'il est archi-clé, protégé, coupé du réseau, mais que vous n'avez pas dit à votre femme ou à votre mari, au fait, c'est par là que ça l'est, et puis que c'est le tel et tel mot de passe qu'il faut que ça soit, évidemment, là, vu qu'on passe tout en numérique, parce que maintenant on n'imprime plus grand-chose, ou que c'est le zéro papier, ou il faut être green, ou il faut être ce qu'on veut, bah, par défaut, il faut quand même aussi être sûr et certain qu'on a accès à ces choses-là. Moi, je pense aussi, et c'est un des points importants au travers du droit à l'oubli numérique lorsque quelqu'un meurt, c'est d'être sûr et certain que la notion des dernières volontés numériques soit inscrite. Est-ce que je décide aussi de dire bah non, je voudrais garder mon mur pendant une année? Bon, bah, c'est aussi tout son droit. Mais ça, si vous le faites pas, c'est un peu comme vos droits de dire je vais aller en crémation ou je vais être enterré dans un caveau ou je veux machin. Bah, ça, maintenant, les notaires sont en train de se poser, de dire. D'ailleurs, je vous rappelle qu'au Japon, le droit au numérique des cimetières numériques existe. Hein. C'est comme une sorte de Facebook, mais de cimetière numérique. Bon, c'est pas dans notre culture, je pense, en tout cas latine ou anglo-saxonne sur certains points, mais ça commence à se faire. Hein. Vous vous rappelez qu'il y a des compagnies qui font aussi les ancestrales, là, les notions de ancestry ou la notion d'être éventuellement enterré du côté de l'eau ou peu importe. Là. Donc, c'est vaste. Il faut savoir qu'il y a une boîte et oui, je me permets juste, parce qu'on me fait signe qu'il faut couper, allez voir un site qui propose aussi, ça pourra vous faire réfléchir. J'ai pas dit que ce site, je l'ai jamais testé, on m'a dit que c'était vraiment, 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 c'est un des Swiss Innovation, ça vient des Suisses, hein. Puis il est certifié, je sais pas combien ils ont de certification au complet, là, c'est SecureSafe, donc ça s'appelle SecureSafe.com. Et SecureSafe.com prend la marche de, justement, de la fonction des... Il y a une fonction, évidemment, breveter. C'est marrant, ils ont une énorme grosse faute d'orthographe dans leur titre, dans la fonctionnalité. Parce qu'ils ont mis recherche, mais recherche, le H est avant le C au lieu de faire. Je comprends pas si c'est pas un fake, là, mais bon, bref. Ça m'a toujours choqué, là, leur titre. Hein. Il faudrait peut-être éventuellement qu'ils leur fassent, hein, mais... SecureSafe est notifié sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de sites internet plutôt européens et français avec justice, hein, mourir 2.0, fonctionnaires et compagnie. Donc, je ne sais pas ce que ça donne, mais ça vous donnerait, je pense, une idée des fonctionnalités, des choses à faire, parce qu'il donne une gestionnaire de toutes les gestionnaires de données. Donc, je vous le précise dans le podcast, mais voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un gros sujet. Il y a beaucoup de choses à gérer, mais et on n'a pas parlé encore une fois aussi de l'immobilier digital qui commence, ou de la NFT aussi pour les cryptoactifs qui commencent aussi à pointer le bout de son nez. Donc ça aussi, ça sera encore une fois à compléter dans ces sujets-là. Voilà. Merci de.
C'est ça, c'est un sujet très passionnant parce que ça nous touche tous personnellement, parce que effectivement, la vie et la mort, c'est vraiment ce qu'on est au bout du compte. Donc tout ça, c'est très intéressant. Je vous remercie tous les deux. Débat très passionnant encore une fois. Je crois qu'on doit remettre ça parce qu'on n'a pas encore réussi à vider le sujet, fait qu'on verra comment on regarde ça. Merci beaucoup.
Merci.
Merci. Bye bye les amis.